Bonjour à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Vous écoutez Cinébrunch en compagnie de Jim Boulay, Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour, chers collègues cinéphiles.
Bonjour.
Salut.
J'allais dire hémophile, mais c'est pas la même chose. Aujourd'hui, à l'émission, Louis nous dévoile son amour inconditionnel pour l'acteur Keanu Reeves et on joue à French Marie Gifle et on vous parle des sorties cinéma et à la maison. Tout ça dans une trentaine de minutes. Mais d'ici là, quelques critiques de films. J'ai vu Les Rois Mongols, le dernier film de Luc Picard, très touchant, et je vais vous en parler un peu plus tard. Et Louis, t'as vu Kingsman 2.
Ce fut excellent.
C'était un bon film.
C'était bon.
Bon, merveilleux. On en entend parler dans quelques instants. Juste avant, Mélina, toi, t'étais supposée aller voir La mort du roi Louis XIV, mais comme on parle déjà de Kingsman et des Rois Mongols, ça aurait fait un peu trop de roi dans l'émission. Fait que t'es allée voir un film de filles à place.
Exactement. Je suis allée voir Bienvenue à la maison, qui est selon moi le parfait film de rupture. Alors, je vous en dis plus tard.
On en parle dans quelques minutes. Mangez vos crêpes, vos œufs puis votre popcorn. Voici Cinébrunch. Louis, des fusils, des gadgets, pis tout, on aime ça ou on aime pas ça, Kingsman 2?
Kingsman 2 est un retour sur le succès que fut Kingsman 1. On parle encore d'un film tiré d'une bande dessinée dirigée par Matthew Vaughn avec Taron Egerton dans le rôle principal de Eggsy. Ce fut vraiment intéressant, mais pour commencer, on va aller écouter la bande-annonce pour vous mettre l'eau à la bouche.
Nous travaillons pour le tailleur Kingsman à Londres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous.
Bienvenue au Statesman.
On est vos cousins américains. On va travailler main dans la main.
Alors, allons-y.
On a les neurones. L'agilité, une corde à sauter.
Juste la bande-annonce, on sent que ça va être drôle. Tu sais.
Mais en fait, si vous avez vu le premier, le deuxième est plus de la même chose. C'est-à-dire que on a encore un film haut en couleur, avec des scènes de combat pleines d'effets spéciaux extraordinaires. On verra pas des trucs hyper réalistes comme on l'a vu dans John Wick. On verra pas des trucs super beaux comme on l'a vu dans Atomic Blonde. C'est vraiment stylisé à l'extrême. C'est vraiment excessivement travaillé. Il y a des ralentis. Il y a des effets de musique qui arrivent au bon moment. C'est absolument excellent.
C'est absurde, là. C'est totalement absurde. On a un mélange de genres, là.
Ben en fait, oui et non. On retrouve Eggsy Galahad à la tête des Kingsmen lors d'une opération où il se fait poursuivre par un des anciens qui aurait voulu être un membre. Donc c'est une intrigue policière où est-ce que Kingsman a des problèmes sur fond de détresse amoureuse de Eggsy. Où est-ce que, suite à un incident, ils doivent faire appel à leurs collègues américains, les Statesmen. Fait que, du niveau britannique, on retrouve Eggsy, on retrouve Merlin, on retrouve Arthur, on retrouve Perceval qui sont encore là. Du côté américain, on découvre une nouvelle organisation complète des Statesmen qui, plutôt que d'être détaillants cette fois, sont dans la boisson. C'est-à-dire que c'est une compagnie de whisky. Qui vont rejoindre. Oui. Et on a des gros noms dans les acteurs au niveau américain. On parle d'une organisation qui est dirigée par Champagne, Champ, qui est jouée par nul autre que Jeff Bridges, du grand succès de Big Lebowski, des frères Coen. On a également, pour faire contrepartie à Merlin, on a Ginger Ale, qui est jouée par Halle Berry. Qui, ma foi, est fort crédible dans ce rôle-là et qui est vraiment intéressante là, à voir aller. On a également, dans le rôle de l'agent Tequila, nul autre que Channing Tatum comme bad boy et danseur émérite.
Ah oui, danseur encore.
Oui, mais on pas dans le même dans la même sauce que Magic Mike. Là. On a quelque chose de quand même un peu plus restreint que ça.
Donc là, il y a comme deux organisations secrètes, si on veut. Yep. Les Kingsmen en Angleterre qui protègent, disons, le roi ancestralement, et les Statesmen qui se cachent sous...
défendent l'union.
Défendent l'union américaine.
C'est vraiment okay. assez clairement indiqué. On retrouve aussi tous les stéréotypes un peu des cowboys. Il y a des chapeaux de cowboys, il y a des bottes de cuir, et également ce qu'on entendait dans la bande-annonce, là, la corde à danser oui. en question, c'est un lasso. Parce que, alors que le premier nous a impressionnés sur des scènes d'armes à feu extraordinaires, le deuxième réitère, mais nous amène également avec des cordes à danser américaine, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de lasso sans pareil dans les scènes de combat. Le premier nous a fait découvrir que Lynyrd Skynyrd et Freebird pouvaient être utilisés à bon escient dans une scène de combat. Je vous divulgacherai pas quelle pièce est utilisée,
okay.
mais tout ce que j'ai à dire, c'est que Elton John est dans le film. Pour plusieurs scènes qui sont toutes meilleures les unes que les autres. Malheureusement, si j'avais à dire quelques points négatifs à propos de ce film-là, l'histoire est très ambitieuse, peut-être un peu plus que ses moyens. C'est-à-dire qu'il y a quelques moments émotifs qui sont vraiment essayés d'être amenés, qui veulent nous faire sortir des larmes ou qui veulent nous faire sentir le poids de la chose, mais qui, par la vitesse ou peut-être par... la quantité ridicule de choses qui se passent à l'écran, on y croit moins.
OK, donc le rythme...
Oui, il y a trop de choses qui se passent, tout okay. simplement. Il y a des moments émotifs qui sont juste qui n'atterrissent pas parce que trop amené dans un film qui n'a pas d'allure. Il y a un retournement de situation assez important qui met en question un peu qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite. Le directeur a déjà annoncé que c'était une trilogie, donc on doit s'attendre à voir Kingsman 3.
Ah, OK.
Oui. Donc ça, c'est sûr que ça s'en vient. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui est mis pour essayer de nous faire croire à la musique. Je veux pas avec un été fort comme ce qu'on a vu avec Baby Driver, comme ce qu'on a vu avec Atomic Blonde, comme ce qu'on a vu avec John Wick, où ce que la musique va occuper une part importante. Ici, on voit qu'il y a une tentative de faire la même chose.
C'est pas à la hauteur, là.
Ça atterrit pas tout le temps. Il y a okay, des pièces okay. qui marchent et des pièces qui marchent vraiment moins bien. Donc c'est pour ça. Par contre, j'ai eu un fond noir. Les scènes de combat étaient absolument magiques. Là. Il y a une scène, entre autres, dans une voiture qui est absolument parfaite. Le tout est sur un thème au niveau de la drogue. Puis Jim, tu l'as vu avec moi.
Oui, fait que les méchants, c'est des contrebandiers.
En fait, la méchante, c'est une femme qui s'appelle Poppy, qui est à la... Oui. Après Valentine, joué par un Samuel L. Jackson, qui zozotait.
Dans le premier, ouais.
Oui, oui, oui. On a ici Julianne Moore, qui joue Poppy, qui est une espèce de femme d'affaires extraordinaire, qui est fascinée par les années 50. On a des trucs robotiques directement tirés. On a... C'est ça, Elton John est présent encore une fois.
Fait que c'est... Ouais.
Oh, c'est ça. Fait que bref, c'était un solide 8. Parce que les scènes de combat m'ont vraiment plu, parce que la musique parfois peut être vraiment intéressante. Les deux points qui manquent sont vraiment parce que au niveau émotif, il y a 2-3 scènes qui ont mal viré.
Mais tu le recommandes, c'est un bon divertissement.
Je le recommande si vous voulez pas trop penser.
Est-ce qu'on peut voir le 2 sans avoir vu le 1?
Oui, oui, parce que ultimement l'histoire n'est pas directement liée. Je te dirais que ce que tu gagnes en ayant vu le 1, c'est les clins d'œil. Okay. Il y a au moins 5-6 scènes qui sont drôles en elles-mêmes, mais qui deviennent absolument mourantes en ayant vu le premier. L'ayant vu avec Jim, qui ne se rappelait pas des mêmes scènes que moi du premier, il y a des moments où j'ai fait « Ha ha! Telle chose s'est dite qui rappelle le premier que Jim ne se rappelait pas et vice-versa. »
Merci Louis.
Un plaisir.
Bon vieux ciné, blotti sous les branches. Mon vieux cinéma muet, au drame silencieux. Sais-tu combien j'aimais le dimanche, retrouver tes fantômes vivant à mes yeux. Film de terreur, d'épisodes et de transe, Pearl White sautant la folle d'un cheval sur un train. Qu'il faisait bleu, l'ombre des vacances, qu'il faisait bon rêver dans mon vieux ciné. À présent, d'autres ciné parlent, émerveillent d'autres enfants, tout comme autrefois. Ils m'aimaient, réveillez-moi, petit Charles, au seuil de la vie, des premiers émois. Mon vieux ciné, c'est un soir d'automne que j'ai compris l'amour pour la première fois, en murmurant « Hélène, je te donne mon cœur ardent mignon, il n'est que pour toi. » Et ce jour-là, Belphégor, sans une phrase, au Louvre, dans une statue, effrayait bien les gens. Main dans la main, délicieuse extase, Hélène, on s'est aimé dans mon vieux ciné. Soldat faisait rire l'assistance. Moi, tes malheurs, Charlot, m'ont fait souvent pleurer. Hélène, mamie, mon amour d'enfance, ce soir, je vous attendrai dans mon vieux ciné. Et là, peut-être, je vous retrouverai.
Bon, Mélina, tu as vu Bienvenue à la maison avec du chocolat, du beurre d'arachide et une cuillère.
Exactement. Donc, j'ai vu le film Bienvenue à la maison. Pourquoi cette blague de Jim? C'est parce que ça met en scène la très populaire Reese Witherspoon. Donc,
Oh mon Dieu, c'est vraiment là qu'on allait ce matin, là.
C'est vraiment là qu'on allait.
Tout à fait.
Bon, alors, oui, voilà. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Hayley Mayer-Shire, âgée de 30 ans. Alors, c'est son premier film en tant que réalisatrice et scénariste. Et là, je vous entends déjà me poser la question, comment une jeune réalisatrice de 30 ans fait pour faire un film avec Reese Witherspoon? Parce que c'est quand même un grand nom, on s'entend.
Oui, avec une cuillère.
Là.
En fait, la réponse, c'est que ses parents, ils sont connus dans le milieu. Ils ont écrit, réalisé et produit plusieurs succès, dont le film, je ne sais pas si vous en souvenez, « La trappe parent ». Qui était sorti en 1998, qui a lancé la carrière de Lindsay Lohan.
Non, mais...
Oui, je m'en rappelle, c'était pas glorieux.
Voilà. Alors, c'est pour cela, selon moi. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails de ce film, on va écouter la bande-annonce.
Il y a un gars adorable dans mon cours de yoga.
Je suis séparée depuis seulement 5 mois.
Et alors?
Est-ce que je peux t'offrir un verre?
Pour
je...
vrai? Ouais. Mon patron demande à voir ta carte d'identité.
OK. En passant, je suis assez vieux pour boire de l'alcool.
Moi aussi. C'est trop évident.
Dépêchez-vous, les filles.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que mamie vous emmenait à l'école.
Pourquoi t'es bizarre?
Je les aime bien.
Namasté, moi c'est Teddy.
Mais ils ont pas un sou, alors j'ai pensé qu'ils pourraient habiter ici.
C'est pas sérieux?
Mais c'est plutôt de voir ça comme quelque chose qui pourrait être excitant.
Ok les gars, faisons de notre mieux pour pas trop nous marcher sur les pieds.
Parfait. Je connais pas ton ex. Mais il doit pas être bien dans sa tête pour t'avoir laissé filer.
Donc voilà, c'était la bande-annonce du film Bienvenue à la maison. Donc c'est un film qui se déroule de nos jours à Los Angeles. Ça met en scène Alice, 40 ans, qui est designer d'intérieur, maman de deux jeunes filles, qui vient tout juste de se séparer de son mari et de déménager dans l'ancienne maison de son père, qui était un réalisateur de cinéma très connu. Et là, elle rencontre trois jeunes hommes d'environ 27 ans qui arrivent à Los Angeles dans le but de réussir dans le monde du cinéma. Il y en a un qui est acteur, un réalisateur et l'autre qui est scénariste. Mais le plus important, c'est qu'ils sont vraiment toutes cute, les trois gars. Et
c'est surprenant dans un film de ce type.
Voilà. Donc, Alice sort avec ses amis pour fêter ses 40 ans dans un bar. Et comme on a entendu dans la bande-annonce, un des trois gars l'invite à prendre un verre avec eux. Et ils font la fête tous ensemble et ils rentrent tous dormir chez elle. Le lendemain matin, la mère d'Alice arrive à la maison et sympathise fortement avec les trois jeunes hommes. Elle convainc donc Alice de les laisser s'installer chez elle dans le pavillon d'invités. Et ainsi va commencer leur histoire d'amitié.
C'est sa mère là, qui est responsable.
Oui, on peut dire ça. Fallait que quelqu'un soit responsable de créer cette situation unique.
Oui, c'est ça.
Là, nos auditeurs et auditrices ne verront pas les guillemets que je fais dans les airs en ce moment, mais d'amitié?
Oui, d'amitié, malgré qu'il y a une petite histoire d'amour, mais en fait, je dirais que les trois gars sont tellement gentils avec elle, ils vont s'occuper de ses filles, ils vont faire à manger, ils vont réparer les choses brisées dans la maison, ils vont être à l'écoute de ses émotions. Bref, le rêve de toutes les femmes.
Oui, mais je comprends pas pourquoi ces gars-là, ils tombent du ciel, là? Ils viennent comme ça, ils décident de s'établir les trois chez elles, s'occuper de ses enfants, tout ça.
Non, mais ils sont pauvres parce qu'ils sont à Los Angeles puis ils essaient de faire... C'est ça.
Exactement, Louis, t'as bien écouté la bande-annonce. C'est pour cette raison, ils ont pas un sou, en fait.
Ah, OK. Bon.
Donc, comme je disais, il y a une petite histoire d'amour entre un des trois gars et Alice, mais il y a pas vraiment d'autres thèmes de développer, ce qui est, selon moi, un des grands manques de ce film. C'est un peu comme si on effleurait plusieurs sujets sans vraiment les approfondir. On aurait pu développer plus dans genre la différence dans genre amour, l'amitié, la vie de communauté ou même les difficultés en tant que travailleur autonome. Parce que oui, Alice vit quelques difficultés avec une de ses clientes. Les trois gars aussi vivent des conflits entre eux. Les trois, ils veulent développer leur carrière solo, mais ils ont un projet de film ensemble. Bref, on effleure tous ces sujets-là sans vraiment rentrer dedans. Puis ça aurait pu être vraiment, selon moi, beaucoup plus exploité. Mais en gros, ça respecte les règles scénaristiques. On connaît le passé du personnage principal, il y a un élément déclencheur, une résolution. L'histoire est bien développée, la situation est quand même originale. On s'entend trois gars qui viennent vivre dans une famille. Mais l'histoire reste vide dans le sens où elle ne nous communique pas grand-chose. Pour ma part, j'aime ça quand le récit me communique quelque chose, une émotion, un point de vue, la vision du scénariste par rapport à une situation. Mais dans le film « Bienvenue à la maison », c'est un film qui n'a pas vraiment de message à transmettre ou bien j'ai pas vraiment réussi à le saisir. Ça reste que les scènes drôles y font sourire et que Reese Witherspoon est crédible dans son rôle de mère. Donc, pour moi, je vous dirais que c'est le parfait film de rupture. Ton copain vient de te laisser, c'est un film parfait pendant une heure et demie pour oublier tes souffrances. C'est ultra léger, puis ça peut changer les idées. Mais si vous remarquez que vous avez une affinité avec Louis par rapport à votre genre de film, je vous le déconseille fortement parce que vous resterez peut-être pas dans la salle jusqu'à la fin.
Je suis content de savoir que je suis maintenant une démographie de film au complet à moi tout seul.
Non, mais quand il n'y a pas de fusil, on sait que t'aimes pas ça.
Exactement.
C'est faux.
Ah oui? Ah, c'est vrai, le problème d'infiltration.
Hey!
Mais je suis convaincue que Louis ne t'offrait pas 10 minutes dans la salle de ce film. Mais bref, pour ce film, Bienvenue à la maison, je donne un très, très généreux 6 sur 10 à voir avec beaucoup de légèreté.
Eh bien, merci Mélina.
Merci.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours quelqu'un. Le gros voisin d'en face s'est accouru, armé, grossier, étranger,
pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes à l'ouette. Ah, mon fils est en prison. Moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.
J'ai été voir pour vous Les Rois Mongols, le dernier film de Luc Picard, et Luc Picard qu'on connaît comme acteur, mais aussi pour avoir réalisé quelques films, pour la plupart des histoires de Fred Pellerin, comme Babine et Ezimézac. Ezimézac, ouais, je pense que c'est ça. Pour Les Rois Mongols, Luc Picard s'inspire du livre Salut mon roi mongol de l'auteur, certains diraient l'autrice, Nicole Bélanger. Ils ont co-scénarisé le film ensemble et le film vient tout juste de remporter le prix du public du prestigieux festival de cinéma de la ville de Québec la semaine passée. Bon, peut-être que prestigieux, je vois un peu fort.
C'est du régionalisme parce qu'on est en Estrie. Québec est une vraie ville.
Oui, tout à fait. Bon, enfin, on écoute la bande-annonce.
On va se retourner à la maison, puis tout va redevenir comme avant.
Promis.
Mais pour le bien-être de vos enfants, c'est la meilleure décision.
Personne nous dit jamais rien. Comme si on n'était pas du vrai monde, comme si on n'avait pas d'opinion.
Le temps que tout ce québécois.
Enlever du monde, poser des bombes.
Pourquoi les fakes enlèvent des otages?
Pour exiger des affaires en échange.
Manon! Où c'est que tu vas?
Chez le diable.
Je veux y aller avec toi.
J'ai une idée. C'est dangereux. T'es-tu game?
C'était la bande-annonce du film Les Rois Mongols de Luc Picard et je vous en parle un peu. L'histoire, j'aimerais beaucoup vous dire que c'est simple, mais malheureusement pas tant que ça. On parle beaucoup de ce film-là comme étant le film sur la crise d'octobre. C'est pas vraiment ça en fait. Oui, ça se passe pendant les événements d'octobre 1970. Le film ouvre avec pas mal avec le discours du FLQ à Radio-Canada. Bon, c'est incontournable pour situer les événements et d'ailleurs, je vais en profiter parce que pour ceux qui sont trop jeunes peut-être ou qui dormaient dans leur cours d'histoire, la crise d'octobre au Québec, c'est une situation sociopolitique où il y a eu des cellules radicales du Front de libération du Québec, le FLQ, qui a commis divers attentats comme des bombes, des enlèvements et notamment le meurtre du vice-premier ministre du Québec, Pierre Laporte.
Ça se passait en octobre.
En octobre, d'où le nom crise d'octobre. Merci Louis. Merci Louis. D'où le nom crise d'octobre.
Un plaisir.
Et à cause de tout ça, le gouvernement fédéral avait décidé de décréter la loi sur les mesures de guerre. L'armée a donc littéralement marché sur les rues de Montréal avec des tanks pitout. Et voilà, fin de la parenthèse. La trame de fond de l'histoire dans Les Rois Mongols, c'est la crise d'octobre. Mais le film n'est pas vraiment sur la crise d'octobre. Et ça, c'est quand même important. Si c'est pas vraiment sur la crise d'octobre, ça parle de quoi? Bon, Luc Picard, à tout le monde en parle, a dit que son film Les Rois Mongols, c'était des jeunes, et j'ouvre les guillemets, des jeunes qui défendent leur enfance contre le monde adulte, les demi-vérités et les compromis. Et que les Mongols, c'était l'autorité, les adultes. C'est plein de sens, honnêtement, là, quand on voit le film. C'est cette volonté-là qui émerge dans le scénario qui a été co-scénarisé par Luc Picard. Donc, les Rois Mongols, c'est des enfants qui vivent l'histoire. On suit précisément les obstacles d'une jeune fille courageuse, Manon, dont le père est très malade. Et elle a un petit frère qu'elle aime et qu'elle prend sous son aile tout au long du film, Mimi. Et il y a aussi ses trois cousins. Le plus vieux, c'est un adulte intellectuel qui partage une idéologie très à gauche. Et les deux autres, un peu plus jeunes, se chamaillent sans arrêt. Et le plus vieux des deux est joué par Henri Picard, le fils du réalisateur, dont le personnage va développer un lien plus intime avec Manon, la jeune fille. Et donc, l'histoire tourne autour de ces quatre kids-là, leur interaction entre eux autres. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un petit peu long au début avant que l'histoire se place. On sent qu'il y a comme une volonté profonde de nous faire vivre l'ambiance du Québec de 1970, peut-être plus même que de réellement placer le récit. Et c'est un peu ce que je reproche à ce film-là, c'est de ne pas s'assumer nécessairement. On parle pas assez de la crise d'octobre pour que ça soit un film là-dessus, mais on en parle un peu trop pour que ça soit un film sur la réalité familiale de quatre enfants. Et les personnages secondaires, les parents, les oncles, les tantes des enfants, bon, ils parlent dans un Québécois typique des années 60-70, là, un gros joual sale, ça tousse, ça mange mal, ça n'a pas de classe. Ça roule CR comme votre animateur. Et on perd beaucoup de temps à montrer ça, et pourquoi? T'sais, c'est ça. pourquoi on met autant de temps là-dessus? Parce que le film, ça va pas là-dedans, mais pas du tout.
Mais de ce que je peux permettre de répondre à ta question oui. que tu poses, j'ai pas vu le film. Mais j'ai entendu des entrevues, puis ce qui était dit principalement, c'était que c'était une espèce de mise en comparaison. C'est-à-dire que les jeunes vivaient leur crise d'octobre personnelle, où ils vivaient l'équivalent oui. d'une révolution.
Par rapport à leur réalité. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Mais bon, peut-être qu'il aurait fallu entrer plus dans cette zone-là, selon moi. Mais bon. Donc, c'est ça. Il y aurait eu un film à faire juste sur la crise d'octobre et un autre sur cette réalité-là, là, des enfants dans ces années-là. Dans Les Rois mongols, on fait juste comme frôler cette réalité-là. Et quand on commence à s'intéresser, ben là, paf, on apprend que le grand cousin intellectuel de gauche, on apprend son sort à la fin du film dans une narration. Mais tu sais, pendant tout le film, on se demande quand est-ce qu'il va apparaître, qu'est-ce qui va se passer. On annonce beaucoup, mais on paye très peu. Et c'est un petit peu dommage. Ça, pour peu de choses, on aurait pu vraiment régler ça. Plus tard dans le film, les enfants se sauvent de leur environnement familial. Ils partent en cavale en campagne avec une vieille dame anglophone qu'ils prennent en otage. Ça manque un petit peu de crédibilité là-dedans, mais ça donne lieu à mon avis, la meilleure partie du film. La chimie qui va se développer au sein du groupe, c'est vraiment cute, c'est vraiment le fun. Les enfants jouent bien. Il y a beaucoup de rire dans la salle, là, surtout quand le Mimi, le plus jeune, parle. Là, on entendait vraiment beaucoup de personnes rire. Et c'est vraiment mignon. Le rôle de la petite fille est interprété par Milia Corbeil-Gauvreau, qu'on connaît pas vraiment. Elle a joué dans quelques projets, quelques films, mais jamais avec autant de visibilité que Les Rois mongols. On s'attache beaucoup à son personnage, à sa relation avec son petit frère. Un beau message de courage, de quitter l'impuissance et de se reprendre en main par soi-même pour les jeunes. Ça, c'est bien. On en aurait pris plus. Et je dois admettre qu'il y a beaucoup de moments touchants dans le film. Là. Les âmes sensibles auront la larme à l'œil quelques fois.
Oui, moi, j'ai beaucoup pleuré durant ce film.
Oui, c'est ça. Sincèrement, c'est un film très, très touchant. Évidemment, je ne vous dirai pas comment l'histoire finit. Au niveau plus technique, la musique québécoise de l'époque est omniprésente dans le film. On veut vraiment nous mettre dans l'ambiance de l'époque, malgré quelques anachronismes. Et Mélina a vu le film et m'a dit justement qu'elle avait adoré la trame musicale du film en sortant. Et puis moi, personnellement, c'est un peu l'inverse. J'ai trouvé qu'à certains endroits, les paroles et la musique clashaient vraiment avec l'ambiance de l'action à l'écran, de ce qui se passait. À part peut-être la chanson Harmonium à la fin du film qui était effectivement de très bon goût.
Oui, ça c'est vrai.
Ça marche.
Je pouvais pas quitter la salle tant que la chanson n'était pas finie, ça fonctionnait trop bien.
Mais c'est dur de quitter Harmonium. Et si vous voulez un film sur la crise d'octobre, je recommanderais plutôt le classique de 1974 Les Ordres par Michel Brault. Sinon, c'est intéressant de savoir que Luc Picard a incarné le premier rôle dans le film Octobre de Pierre Falardeau, je pense que c'était en 1993 ou 1994. Ça traitait vraiment de l'enlèvement de Pierre Laporte, mais ça m'intéresse un petit peu moins dans ce cas-ci.
Ouais. Ça fait ses recherches, les animateurs, ça.
Ben écoute, il faut, hein, on est payé pour ça. Ben, on n'est pas payé, mais bon, c'est une autre histoire. Bref, pour revenir au Roi mongol, est-ce que je recommande le film? Oui, c'est un bon film, c'est cute, touchant, attachant, allez le voir. Je donne seulement 7 sur 10 par contre, parce que l'histoire aurait pu être beaucoup mieux ficelée et beaucoup mieux dosée. Jusqu'à midi, vous écoutez Cinébrunch. Re-bienvenue à tous nos auditeurs pour cette deuxième demi-heure de Cinébrunch. On va parler de Keanu Reeves, le deuxième acteur préféré de Louis juste après Nicolas Cage.
C'est faux.
Mais avant toute chose, c'est le moment de notre petit jeu French Marie Gifle. French Marie Gifle, c'est un petit jeu dans lequel, pour un thème donné, chaque joueur doit, à tour de rôle, choisir entre trois éléments. Lequel il frenchera, on parle donc de plaisir immédiat, lequel il mariera, on parle d'engagement à long terme et de confiance, et finalement, lequel des trois il giflera, on parle donc de refus et de boycott du dit film, sujet ou individu. Cette semaine, entre ces trois films, La Matrice 1, Ghostbusters 1 et Men in Black 1, Louis... French Marie Gifle.
Oui, c'est moi qui commence en plus. Wow! Je marie La Matrice.
Déjà comme ça, là.
Non, d'emblée, parce que c'est un film qui m'a marqué, parce qu'il y a de la philosophie, parce qu'il y a les sœurs Wachowski, parce qu'il y a Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weaving. Je veux dire, on n'a pas le choix, là. Faut que je marie La Matrice. Je n'ai pas le choix donc de frencher Men in Black parce que Will Smith était à mourir de rire.
Effectivement,
là-dedans.
Il était extrêmement drôle.
C'était un peu léger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'impact philosophique de La Matrice, il n'y a pas les citations qui sont encore marquantes. On parle encore de la pilule rouge, de la pilule bleue, alors que bon, on parle pas des scènes. Pourtant, il y a des scènes vraiment impressionnantes. Puis il y avait aussi des trucs intéressants au niveau de la pensée, c'est-à-dire que la scène où ce qui est en train de tester pour être un membre des Men in Black, puis où est-ce que Will Smith, alors que ses collègues sont tous en train de tirer follement sur des cibles qui ont l'air de des extraterrestres, Will Smith attend, et finit par tirer sur la jeune fille.
Avec ses livres de physique quantique.
C'est ça, il explique une jeune fille blanche dans un ghetto avec des livres de physique quantique qui fait aucun sens, alors que tous les autres aliens sont là. Bref, mais donc, French Men in Black, spécifiquement Will Smith.
On le dira pas.
Et donc, par conséquent, tristement, je me dois de gifler
Ghostbusters. Bon, on dirait que ça te fait plaisir, hein? C'est ça qui me fait de la peine un peu.
C'est que c'était dur, c'est des bons films. Je dois admettre, j'ai écouté récemment Ghostbusters pour la première fois. Moins impressionnant que je le pensais. J'aime quand même Dan Aykroyd, j'aime quand même... c'est quoi son nom? Le comédien que t'aimes tant.
Bill Murray,
c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai pas le choix. Je dois gifler Ghostbusters.
Bon. Émilina, de ton côté, French, Marie Gifle, La Matrice 1, Ghostbusters 1 et Men in Black 1. Donc, Les Hommes en Noir 1, les SOS Fantômes 1 et La Matrice 1.
Oui, alors... Pour ma part, je dirais que je French Men in Black 1, mais parce que c'est un film que j'ai vu et que j'ai oublié avoir vu et que je ne me rappelais plus avoir vu. Donc, c'est parfait pour un French que tu French une fois, puis ensuite, tu l'oublies.
Mais tu l'as écouté il y a 2 semaines.
Oui, je sais. Puis 2 jours après, j'avais oublié déjà que j'avais vu ce film-là tellement ça m'a pas marqué, comme un French d'un soir, voilà.
Bon.
Le film qui m'a vraiment le plus marqué, c'est La Matrice 1. Donc, c'est celui-là que je marierais. Parce que, comme Louis l'a dit, mais aussi, je pense que c'est un film que... qui en a inspiré plusieurs autres qu'on a vus, qui ont été des succès quand même dans les dernières années. Je vais juste penser à Inception, qui m'a beaucoup... qui se sont inspirés, à un moment donné, de La Matrice 1. Alors, c'est pour ça, je pense que ça l'a donné lieu à plusieurs enfants et petits-enfants. Donc, je marierais parce qu'il semble très prolifique. Ghostbusters 1, c'était bon, mais ça dépend toujours à quoi on les compare. Quand on compare à La Matrice 1, ben, je veux dire, c'est juste pas comparable. Alors, dans ce top 3-là, c'est sûr que je giflerais un peu Ghostbusters 1. Je pense qu'en fait, il y avait beaucoup de placements, de personnages, on venait plus expliquer l'histoire, donc bon, c'était bien, mais c'est ça. Je veux dire, je sais pas si ça aurait pu être mieux à l'époque, mais aujourd'hui, je me place en 2017. C'est pas celui-là que je French ni que je marie.
Bon. Jim, French Marie Gifle, La Matrice 1, SOS Fantôme 1 ou Les Hommes en Noir 1?
Et ben, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile à choisir. J'ai l'impression peut-être plus que vous deux. Pour moi, Ghostbusters 1, c'est vraiment un classique de mon enfance. Je suis invétéré, pour ne pas dire invertébré, devant Bill Murray. Et malheureusement, je dois gifler aussi, comme vous, SOS Fantôme, parce que je dois admettre que ça a un petit peu mal vieilli. C'est un peu long avant que l'action commence dans le film, tout ça. Mais c'est avec une certaine douleur au cœur que je gifle Ghostbusters 1. Et donc, comme vous, hein, ça, c'est bizarre, on s'était pas consulté, mais Men in Black 1 est la comédie américaine de science-fiction par excellence, selon moi. J'adore ce film-là, c'est mon film d'été numéro 1. C'est divertissant, absurde à plusieurs niveaux d'humour. J'aime beaucoup aussi Will Smith et je le French donc.
J'ai oublié de mentionner aussi, dans Men in Black 1, on a aussi Will Smith qui rappe et un de ses bonnes pièces.
We are the Men in Black. Dress in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead. J'osais pas faire ça à la radio. Bon, bref. Et donc, par conséquent, je marie La Matrice parce que, bon, c'est un des films les plus importants du cinéma, selon moi, tant au niveau de l'évolution des effets spéciaux qu'au niveau du concept. C'est un film marquant et métaphorique, même au niveau visuel, ça prend un petit peu de vieux, mais le visage drabe et alexithymique de Neo fera toujours frissonner les plus sceptiques. Cette phrase-là voulait absolument rien dire.
En effet.
Bon. Mais on s'en reparle dans quelques minutes parce qu'on va parler de Keanu Reeves. Louis, tu nous proposes une chronique toute spéciale aujourd'hui. Tu vas nous parler non pas de Christopher Reeves et encore moins d'Hubert Reeves, tu vas nous parler de Keanu Reeves, alias Neo dans La Matrice 1, entre autres.
Oui, ben en fait, l'été 2017 nous a donné droit à John Wick chapitre 2, qui était un film extraordinaire que j'ai beaucoup aimé et qui mettait en vedette nul autre que Keanu Reeves. On a eu des petits désagréments au sein de l'équipe de l'émission. C'était un euphémisme ici. Sur l'importance de Keanu Reeves dans le cinéma américain, certains de mes collègues, Jim, ont tendance à croire que Keanu Reeves est un acteur qui est surestimé ou à tout le moins qui est vraiment pas bon. Parce que effectivement, Keanu Reeves est principalement connu pour ses rôles très stoïques, très fermés. Mais si on fait un bref historique, on peut voir que, en fait, Keanu Reeves a fait une diversité de rôles vraiment intéressants et a vécu des choses au niveau cinématographique qui le rendent un acteur vraiment intéressant. Parce que si on revient en 1989,
ouh,
dans le passé,
on n'était pas né.
J'étais né.
Non, oui, toi t'es vieux. Du haut de tes 32 ans.
Bon. Merci Louis. Toutes mes conquêtes radiophoniques disparaissent soudainement.
Je révèle au Québec en entier. Jim a 32 ans. Je vous ramène en 1989 pour la sortie de Bill et Ted. L'aventure excellente de Bill et Ted. Une comédie de stoner où deux jeunes veulent faire une présentation historique incroyable à leur professeur et se ramassent embarqués dans une aventure avec une machine à voyager dans le temps.
Ah oui, la cabine téléphonique.
Oui.
C'est bon, ça!
C'est un des premiers rôles qui a mis Keanu Reeves sur la map. Il est particulièrement expressif dans ce film-là parce que on est dans une comédie. C'est dans le même ordre que Wayne's World, c'est dans le même ordre que Dumb and Dumber. C'est rien de brillant, c'est rien de pertinent, mais c'est très drôle, c'est vraiment intéressant. Et c'est la première fois qu'on voit Keanu Reeves à l'écran de manière crédible. We're history. If you guys are really us, what number are we thinking of? 69, dudes! Bill and Ted's Excellent Adventure. Party on, dude.
Je sais pas ce qu'il dit, mais le bon terme, mais bon.
Écoute, ça a été assez populaire pour qu'on ait une série animée qui a duré 2 saisons, ainsi qu'une suite 2 ans plus tard. Qui a pas été super bien acceptée au cinéma.
Ouais.
Donc en 91. Où la suite de Bill et Ted sort, on le voit également camper l'agent secret du FBI, Johnny Utah, dans Point Break, où il se démarque par sa volonté de faire ses propres cascades. C'est déjà le début
c'est
de
vos... Ah oui, moi je savais pas ça.
C'est pas toujours, mais c'est là où il commence à vraiment inciter pour faire ses propres cascades.
Mais pourtant, je trouve qu'il manque de cicatrices dans son visage.
Non.
Même dans Clanche, il me semble qu'il est jamais tellement magané.
C'est un homme extraordinaire. En fait, certaines rumeurs sur Internet notent que Keanu Reeves est immortel. Parce que si j'ai fait des recherches beaucoup pour cette chronique-là, et si tu regardes des photos de 1989 à aujourd'hui, sa coupe de cheveux change. C'est à peu près tout ce qu'on voit vraiment comme modification importante.
Même visage. Plat,
il n'y a pas pris une ride, alors.
Zéro puis une barre. Il n'y a pas de ride, il n'y a pas rien.
Mais
il change
blême.
De coupe
il
de
il
cheveux.
Il est blême, ce gars-là. Il a le visage blanc. Blanc, blanc comme
il manque de soleil, c'est tout.
Ben, probablement.
Mais et pourtant.
Il mange trop d'endives.
Dans Johnny Utah, il est un surfeur. Mais en tout cas, si en 94, dans Speed, un film d'action à haute tension.
Clanche en français, je pense, ouais.
Clanche
ouais,
ça se
ouais,
peut.
Ouais.
Le truc où.
Avec l'autobus, là,
ouais,
qui
ouais,
est jamais,
à 50 000 à l'heure.
J'adorais ce film-là quand j'étais kid.
On le voit également, ça, c'est un de mes films favoris, il fallait que j'en parle, dans Johnny Mnemonic. J'en parle aussi parce que c'est un film, c'est un de mes films cultes. C'est pas bon, ça a mal été pris au cinéma, mais c'est vraiment un suivi culte parce que. C'est tiré d'un roman dystopique de William Gibson et c'est la première fois qu'on voit Keanu Reeves dans un petit roman-là, c'est un thème qui va revenir plus tard. C'est seulement en 99 que vraiment Keanu Reeves atteint le pinacle de sa popularité. C'est là qu'on le voit exploser sur les écrans américains avec nul autre que La Matrice dont
évidemment,
on parlait plus tôt.
La Matrice.
Hugo Weaving, Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne, dirigé par les sœurs Wachowski. Un thriller d'aventure, science-fiction. On pensait que 99 allait être l'année de Star Wars, La Menace Fantôme.
C'est vrai.
Ce ne fut pas le cas.
Non, La Matrice.
L'été, La Matrice a réussi à voler le vent dans les voiles de Star Wars. C'est un film extraordinaire. C'est un film où vraiment Ken Reeves gagne sa réputation d'homme au masque impassible parce qu'il pense le film au complet à faire les deux mêmes expressions qui sont Ken Reeves confus et Ken Reeves fâché.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est à peu près ça.
J'aime quand il fronce les sourcils. Hein.
Il est crédible en quelque sorte.
Il est très bon. Moi, j'ai trouvé très bon dans ce film-là. Crédible.
C'est un beau rôle, mais peu d'expressivité selon moi.
Non, mais c'était pas nécessaire pour le rôle. Mais il faut aussi dire que c'est le début. Avec Johnny Mnemonic, avec La Matrice, c'est là qu'on voit la force de Ken Reeves de prendre des prémices vraiment ridicules et d'en faire des films sérieux, intéressants, pertinents. On l'a vu dans La Matrice rechargée, Matrice la Révolution, 2003-2003. On le voit également dans Constantine, un film qui, pourtant, est une mauvaise adaptation d'une bande dessinée de DC, mais un excellent film du supernaturel où est-ce qu'il campe un exorciste désabusé, cynique, qui se ramasse à affronter les forces des ténèbres sous la forme de l'archange Gabriel. On le voit également dans A Scanner Darkly, un scanner foncé, je crois en français, qui est un retour aux affaires, encore une fois, tiré d'un roman. Cette fois-ci, Philip K. Dick plutôt que William Gibson. Excellente performance, tout en rotoscope, vraiment pousser les limites de la technologie. On le voit également en 2013 dans 47 Ronin.
Ah oui, pour vrai?
Oui, c'est le rôle principal avec entre autres Rick Jeunesse, Zombie Boy. Mais il a un peu perdu de son cachet. Depuis La Matrice, de Constantine, A Scanner Darkly, des projets moins importants, des projets moins d'action, c'est en 2014 qu'on le voit revenir en force à l'écran avec John Wick chapitre 1, qui était extraordinaire, où on le voit faire l'entièreté de ses cascades dans ce film-là. Il s'est entraîné extensivement pour être capable de faire les scènes d'armes à feu. Donc un homme dédié à son travail.
Il est beau quand il se fâche en plus de ça.
2015. Il est beau quand il se fâche. Ah bon, c'est vrai, on a un extrait de lui qui se fâche. Jim, s'il te plaît. And your son took that from me. Stole that from me. Killed that from me. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. So you can either hand over your son, or you can die screaming alongside him!
À mon avis, la scène la plus intense avec Keanu Reeves au cinéma.
J'en ai des frissons.
En fait, je te dirais que t'as tort, parce que dans mes recherches, j'ai également écouté des extraits d'un film qui s'appelle Knock Knock, qui est sorti en 2015.
Ah!
Qui est un drame, horreur, thriller, où un père de famille, campé par Ken Reeves, répond à la porte où deux jeunes filles lui offrent de la pizza gratuite, qui s'avère être en fait les débuts d'une liaison dangereuse qui se transforme en film d'horreur rapidement quand les deux jeunes filles restent là et kidnappent Ken Reeves à ce moment-là. Les scènes, il y a une scène entre autres où on le voit attaché à une chaise qui est absolument excellente. Ce film apparemment vaut définitivement la peine. Je dois l'écouter quand je retourne à la maison.
Bon, ben.
Sinon, dernier projet, c'est John Wick chapitre 2 qui vient tout juste de sortir, qui était excellent. Donc c'est ça. Je pense que Ken Reeves est un acteur qui prend des prémices parfois ridicules, parfois complètement rocambolesques et qui les transforme en film crédible, intéressant. Oui, parfois en tendance à sous-jouer ses personnages et les plutôt taciturne, mais reste quand même quelqu'un de très intéressant et qui fait des scènes d'action absolument enlevantes.
Louis, il y a une chose que j'ai envie de te présenter, parce qu'on parle de Keanu Reeves, mais Louis, savais-tu que Keanu Reeves interprète la voix du chat dans le film américain Keanu, sorti en 2016?
Oui.
Voici un extrait.
Hello, Clarence. It's me, Keanu.
Meow.
Wait. Are you Keanu Reeves?
Yeah. I'm your spirit teacher. People can't be excellent to you unless you're being excellent to yourself.
Un beau clin d'œil à La Matrice, bien sûr.
C'est triste parce que le film est pas très bon.
Ben, il a pas l'air très bon, honnêtement.
Je l'ai écouté, c'est pas très bon.
Mais l'extrait est particulièrement drôle.
Oui.
Keanu
Reeves. C'était la seule chose intéressante dans tout le film.
Enfin, voilà, c'est bien amusant. Merci Louis.
Un plaisir. We'll be right back.
au cinéma. Il est 20h, la caisse est prête, il pleut dehors, l'hiver s'apprête. François attend des spectateurs depuis 20h, mais tourne l'heure. Le vent s'engouffre dans l'entrée, les vitres tremblent, rien qu'à l'idée d'un écran blanc pour la soirée. Deux sièges vides pour l'observer. Aucun client ne se profile sur la place, un bac tranquille ce soir sera sans cinéphile.
C'est le moment de vos sorties Blu-ray, DVD. Pour cette semaine, il y a la sortie du film Pirates des Caraïbes. Le dernier, Les Morts ne racontent pas d'histoire, avec évidemment Johnny Depp qui est de retour dans son rôle du pirate Jack Sparrow. L'équipage partira à la recherche, l'équipage partira à la recherche du trident de Poséidon, mais Jack Sparrow souffre d'alcoolisme.
Encore.
C'est ça. Non, mais ça marche, ça marche. Regarde, ça marche. Pas le choix. Dans un tout autre domaine, The Book of Henry, deux garçons organisent un plan pour sauver la petite voisine battue par son père. 22% sur Rotten Tomatoes, donc certainement un grand film. Et finalement, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Une histoire de fantôme. Il me semble avoir vu l'annonce d'ailleurs sur le site de la maison du cinéma de ce film-là, mais en tout cas, ça sort en DVD Blu-ray. Jeune fantôme, donc il vient juste de mourir, retourne dans sa maison familiale et se sent impuissant. Mais ça, c'est vrai que ça porte la confusion. Il retourne dans sa maison familiale, il se sent impuissant devant le deuil de sa femme. Il fait un voyage à travers le temps et l'histoire et découvrira des concepts profonds sur la vie humaine. Et c'est relativement bien coté comme film, honnêtement, ça m'a surpris de plusieurs sources même. Et voilà. Et de ton côté, Mélina, il n'y a pas juste des films, il y a aussi des séries.
Oui, alors sur Netflix en octobre, à quoi ça nous fait penser? À la saison 2 de Stranger Things.
Oh oui, c'est vrai!
Mais ça s'en vient, c'est le 27 octobre. Donc, en attendant, le 1er octobre, il y a le film Black Mass de Johnny Depp qui sort sur Netflix. Ah.
Un excellent film de... Non, mais c'est tiré dans la même histoire que The Departed, un excellent film de criminel à Boston.
Donc, vous pouvez regarder ça en attendant Stranger Things, saison 2. Donc, sinon, le 2 octobre, on a le film Los 33, j'imagine. C'est le film qui parle des 33 mineurs au Chili qui mettent en vedette Antonio Banderas. J'ai entendu dire que c'était très bon.
Ah, OK.
Donc, on peut regarder ça sur Netflix. Et sinon, vendredi prochain, le 6 octobre, on a la saison 6 de Once Upon a Time qui va sortir et la saison 7 de Scandal de Shonda Rhimes, la même créatrice de Grey's Anatomy que j'affectionne particulièrement.
Et dont tu vas sûrement un jour nous en parler durant 7 minutes.
Oui, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures.
Merveilleux.
C'est ce qui s'en vient sur Netflix cette semaine.
Et Louis, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient au cinéma?
Il y a une couple d'affaires, en fait. Cette semaine, entre autres, on a The Big Sick, Mal d'amour, une comédie romantique tirée d'une histoire vraie. C'est un comédien pakistanais. En fait, le rôle principal est joué par le type dont c'est l'histoire.
Ah oui, c'est
Kumail Nanjiani qui fait ça. C'est un bon comédien, d'ailleurs, on l'a vu dans, je pense que c'est dans The Big Bang Theory, entre autres.
Ah oui, ok.
Un comédien pakistanais qui tombe en amour avec sa femme alors qu'elle est dans le coma. Il y a toutes des histoires autour de sa famille. Apparemment, très bon.
Ça a l'air très touchant pour avoir vu la bande-annonce.
Oui, les critiques ont déjà commencé à sortir. On a également Gabriel et la montagne, un drame réalisé par Felipe Barbosa, qui est un film brésilien à propos d'un type qui part en voyage autour du monde avant d'entrer à l'université. Un drame-aventure. On a également une autre histoire vraie qui est Victoria et Abdul. Qui
met en vedette, c'est une histoire vraie?
Oui, la fin du règne d'Élisabeth Ier.
Ah oui, c'est vrai ça?
Oui, c'est très vrai.
Elle est venir ses manques d'Inde puis tout ça là.
Mais je sais pas à quel point c'est romancé, j'ai pas fait de recherche pour ce film là très franchement, mais oui, l'histoire est basée sur quelque chose de vrai. La reine serait vraiment tombée en amitié avec un de ses serviteurs d'origine indienne. On a également Battle of the Sexes, qui est une biographie de la joueuse de tennis américaine Billie Jean King, qui, déjà à la tête de son sport, devient vraiment une icône lorsqu'elle accepte de jouer contre Bobby Riggs, qui est un autre joueur de tennis qui était réputé pour être misogyne. Les deux rôles principaux sont campés par Steve Carell et Emma Stone. Apparemment que c'est très drôle. Le film que tout le monde attend la semaine prochaine. La chose.
Oui.
On va voir.
La chose.
Sans hésitation.
Le problème d'infiltration 2.
Mon petit poney, le film. Lorsque Ponyville est menacé par une force obscure, le groupe des Man 6 s'embarque dans un incroyable voyage. C'est réalisé par Jason Thiessen, le gars qui fait déjà ça à la télévision. Bon, vous comprendrez que c'était une blague. Le film que j'attends avec impatience, j'ai tout lu, j'ai tout vu, j'ai tout entendu à propos de ce film, c'est Blade Runner 2049.
Oui, avec Harrison Ford.
Réalisé par ce qui est potentiellement mon directeur favori en ce moment, Denis Villeneuve. Mon acteur que je trouve le plus cute en ce moment au cinéma, Ryan Gosling, Dave Bautista, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, un jeune Blade Runner découvre un secret enfoui qui l'amène à devoir retrouver Rick Deckard, ancien Blade Runner qui est disparu depuis 30 ans. On retrouve l'univers, on retrouve l'atmosphère de Blade Runner, l'original, un film extraordinaire
des années 80. Même la bande-annonce, au niveau de la musique de la bande-annonce, nous ramène totalement dans le...
Au complet.
Ouais.
Y a également trois courts films qui sont sortis, deux live-action, un animé, pour expliquer le passage du temps entre les deux. Entre autres, un de ces films-là se concentre sur le personnage de Dave Bautista. Et Bautista, qui est un lutteur à la base, qui est devenu acteur, qu'on l'a vu dans des rôles plutôt simplistes dans Guardians of the Galaxy, mais qui dans ça est vraiment intéressant, a un jeu d'acteur, le fun, et est vraiment crédible au niveau de ses émotions. Donc, j'ai beaucoup d'excitation en ce moment pour la venue de Blade Runner 2049. C'est très possible que vous allez me voir camper le cinéma pour aller le voir 3-4 fois d'affilée.
Oh, ça promet.
Ah, yeah.
Eh bien, Louis, rapidement, tu as vu ça? Tu as vu le film ça? It? Tu as vu It? Bref, c'est quoi l'idée d'appeler un film de même? Louis, tu as vu le film ça?
Oui, il faut en parler, en fait, de Stephen King, qui est l'auteur du livre duquel est tiré le film. Oui, j'ai vu It, et j'en suis chamboulé. Les gens qui disent que c'est un film d'horreur, c'est un peu trompeur. C'est à la limite entre le film d'horreur et le film de monstre. C'est-à-dire que... Oui, il y a des éléments de suspense, du thriller, mais c'est pas nécessairement autant horrifique que... Le film a terminé et j'en aurais voulu plus sur les origines de It.
Comme dans, comme dans le problème d'infiltration.
Ouais, mais c'est pas le même objectif de film. Je vais me fâcher.
Clairement pas.
Donc oui, je le recommande à tous ceux et celles qui ont le cœur solide parce qu'il y a quand même des scènes assez horrifiques. C'est fou qu'on est capable de s'en sortir à cette heure au cinéma. Il y a, ben en fait, c'était côté R pour mature parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont
intense.
Gore. Là. Il y a deux, trois scènes, entre autres, dans les scènes du tout début où il y a un jeune garçon qui se ramasse devant une bouche d'égout, puis c'est ça. Le clown montre ses vraies couleurs.
Qu'est-ce que tu fais avec ton popcorn dans ce temps-là? Tu peux pas le manger si t'as trop mal au cœur.
Moi, je mange mon popcorn au travers toutes ces épreuves.
Surtout au début,
c'est une marque de fierté.
Louis n'est pas une âme sensible. Très rapidement, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous comptez voir cette semaine pour la semaine prochaine?
Moi, je vais peut-être probablement aller voir le film Retour en Bourgogne. Voilà.
Ah, avec du vin, les Français, puis toute l'équipe.
Voilà.
Ouais.
Moi, je vais aller voir Fait en Amérique, Made in America, avec l'incroyable coureur Tom Cruise.
Et toi, Jim?
Je sais pas encore, ça dépend. On va sûrement faire un duel, moi et Louis, pour savoir qui va aller voir Flatliners. Alors, à suivre.
Mais j'ai pas le choix d'aller voir American Made, parce que ça va être vraiment dans mes cordes.
Oui, bon. C'est déjà fini pour cette édition de Cinébrunch. On se retrouve la semaine prochaine. Même brunch heure, même brunch chaîne. Merci Louis, merci Mélina.
Merci.
Bye bye.
À la semaine prochaine.